Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Il est 19h.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous, merci de vous informer avec nous jusqu'à 20h. Bonsoir Hélène Zélani.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Après 15 jours de tension autour des pompes à essence, le gouvernement se fâche, hein ?
Oui, Elisabeth Borne demande au préfet d'engager des réquisitions dans les dépôts Esso, vous l'entendrez, et on sera également devant l'un des dépôts concernés près du Havre.
Et on va connaître la position de la CGT en pointe du mouvement. La secrétaire confédérale Cécile Verzelati sera avec nous tout à l'heure. Nous entendrons aussi Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Dans le reste de l'actualité, Hélène.
Un conseil de défense à l'Elysée pour évoquer la situation en Ukraine. La France va renforcer sa présence militaire dans l'est de l'Europe, notamment en Roumanie. Et puis le mal-être de Kylian Mbappé au PSG, il souhaiterait quitter le club rapidement. Ce soir, les Parisiens reçoivent le Benfica en Ligue des Champions.
Bonne ambiance avant le coup d'envoi. La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Raphaël et bonsoir à tous. Alors un ciel partagé entre nuages et soleil demain, mais après de nombreuses grisailles matinales, on les attend du sud-ouest au nord-est. Quelques gelées possibles au nord de la Seine et des températures maximales toujours très élevées pour la saison. On fait un point à la fin du journal.
À tout à l'heure, Marlène.
Europe 1.
Cette fois, le mot est lâché. Réquisition. C'est Elisabeth Borne qui l'a annoncé tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Le gouvernement appelle à la responsabilité pour dialoguer. Un désaccord salarial ne justifie pas de bloquer le pays. Refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
La première ministre qui annonce donc la réquisition des personnels des dépôts de carburant du groupe Esso, ça veut dire concrètement qu'ils devront reprendre leur poste pour permettre l'approvisionnement des stations-service. Alexandre Chauveau, c'est donc un pas important qui vient d'être franchi.
Oui, accusée dans l'hémicycle par Éric Ciotti de ne plus gouverner, Elisabeth Borne a cette fois-ci durci le ton. Le gouvernement tente d'affirmer son autorité et de combler son retard à l'allumage. Retard que concèdent d'ailleurs certains conseillers en privé. Selon nos informations, plusieurs préfets avaient en effet proposé, dès la semaine dernière, de réquisitionner les raffineries en grève sans recevoir de réponse positive. Alors concrètement, les salariés de deux des trois dépôts du groupe Esso sont concernés, ce qui signifie qu'en cas de refus de retourner au travail, ils s'exposent à une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende. Une peine qui pourrait malgré tout être contournée par les employés s'ils venaient à se mettre en arrêt maladie. C'est précisément l'hypothèse que redoute le gouvernement qui ferait alors une démonstration d'impuissance. Même si l'exécutif pourrait abattre une dernière carte, le recours aux forces de l'ordre sur décision de la Première ministre au titre, je cite, de la satisfaction des besoins vitaux de la population. La CGT a de son côté d'ores et déjà annoncé qu'elle saisirait la justice pour une démarche qu'elle juge illégale.
Alexandre Chauveau.
Ces réquisitions concernent donc deux dépôts, Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et Notre-Dame de Gravenchon en Seine-Maritime.
Et on va partir justement tout de suite à Notre-Dame de Gravenchon près du Havre. Guillaume Dominguez, vous êtes devant le dépôt Esso. Comment réagissent les salariés à l'annonce des réquisitions ?
Eh bien, cette annonce de la Première ministre a avant tout surpris ici. Ce que m'expliquaient les syndicats, c'est que des réquisitions préfectorales dans le cadre d'un mouvement de grève, ce n'est pas nouveau, mais en général, elles concernent des tâches de maintenance. Par exemple, ici à Notre-Dame de Gravenchon, la raffinerie est un site Céveso. Donc les grévistes se relayent toutes les 8 heures depuis le début du mouvement, sur demande du préfet pour assurer la sécurité du site. Mais jamais ces ordres de mission ne sont allés à l'encontre du droit de grève, selon les syndicats. Pour Pierre-Antoine Aubert, délégué général de Force Ouvrière, c'est du jamais vu depuis 40 ans.
Le personnel est déjà requis, donc en fait on ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire de plus en termes de réquisition. Ils ne vont pas mettre quelqu'un derrière son dos pour aller tourner une vanne. Donc en fait on est très surpris de cette annonce et on ne sait pas comment ça se passe.
Voilà, et pour l'heure, les syndicats ne savent donc tout simplement pas comment réagir. L'un des représentants m'a confié qu'ils attendaient le retour de leurs avocats pour connaître les possibles sanctions encourues par un gréviste qui refuserait une réquisition. L'annonce, elle, ne concerne pour le moment que les dépôts et permettrait simplement aux camions de venir vider les cuves de réserve pleines de carburant. Aucune réquisition ne concerne pour l'instant la production en elle-même, donc la raffinerie reste pour l'heure à l'arrêt.
Guillaume Dominguez devant le dépôt Esso de Notre-Dame de Gravenchon près du Havre.
Et après Esso, à qui le tour ?
Eh bien, la réponse est vite trouvée chez Total. La grève a encore été reconduite. La direction se dit prête à commencer des négociations si le mouvement s'arrête. Fin de non-recevoir de la CGT. La grève s'étend même désormais à la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Jean-Luc Boujon, vous êtes devant la raffinerie Total de Fézin dans le Rhône près de Lyon. Les grévistes s'attendent aussi à être réquisitionnés ?
Eh bien, en tout cas, c'est une éventualité qu'ils prennent en compte désormais, même s'il faut remarquer que chez Total, la situation est différente, puisqu'il n'y a pas eu d'accord ni de discussion d'ailleurs entre syndicats et direction. Mais effectivement, c'est une possibilité pour les jours à venir qui est envisagée avec sérénité, assure Olivier Mercier, délégué syndical CGT.
Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réquisition. Donc pour l'instant, on attend tranquillement. Et lorsque les réquisitions tomberont, nous envisagerons du mouvement à suivre ou pas.
Ici à Fézin, la raffinerie est bloquée depuis le 27 septembre avec seulement 47 camions-citernes qui sont sortis avec du carburant depuis cette date, contre 250 par jour en temps normal. Une situation dont la direction est seule responsable, estime Sébastien Saliba, opérateur à Fézin et délégué CGT.
Ce qu'on veut dire aux Françaises et Français, c'est que les blocages, c'est la conséquence du non-dialogue du PDG. Le PDG du groupe Total Énergie ne souhaite pas discuter sur l'inflation que subissent toutes les travailleuses et travailleurs de notre groupe.
Il n'y a pas de dialogue, quoi.
Non, il n'y a pas de dialogue.
Voilà, la balle est donc dans le camp de la direction, affirment les grévistes. En attendant, réquisition ou pas, ils seront à nouveau devant la raffinerie demain midi pour un grand barbecue revendicatif et solidaire.
Jean-Luc Boujon à Fézin, près de Lyon, pour Europe 1.
Et en attendant les réquisitions, l'inquiétude monte chez les transporteurs routiers.
Et notamment chez les entreprises de transport frigorifique. Si les pénuries de carburant perdurent, certains produits alimentaires pourraient très rapidement disparaître des rayons. Valérie Lasserre, directrice générale de l'association Chaîne Logistique du Froid.
Nos camions, pour se mouvoir, ont besoin de diesel et pour produire du froid, de ce qui s'appelle le gasoil non routier. Et aujourd'hui, l'essentiel de nos adhérents nous disent nous n'avons plus accès au gasoil. Moi, j'ai des entreprises qui me disent dans deux jours, j'ai plus rien. Dans deux jours, je ne roule plus. Et si mon camion frigorifique ne roule pas, eh bien, je ne peux pas transporter les yaourts, les crèmes glacées, les steaks hachés. Ça commence à devenir extrêmement critique. Nous sommes un peu une profession de l'ombre. Ça marche tellement bien tout le temps qu'on ne se pose pas la question de savoir comment les produits arrivent dans les supermarchés. Mais là, l'effet secondaire des blocages des raffineries, c'est l'approvisionnement de la chaîne alimentaire. Attention, la situation maintenant se tend de plus en plus. Notre message n'est pas de faire peur, mais d'alerter pour qu'on se rende compte des effets collatéraux de ces blocages.
Des propos recueillis par Baptiste Morin. Voilà les tout derniers chiffres du gouvernement concernant les stations-service. 31% en difficulté dans toute la France, c'est une moyenne. Ça s'aggrave en région parisienne à 44% contre 34% hier. Ça s'aggrave aussi dans le centre Val-de-Loire, 45% des stations en difficulté aujourd'hui.
Gros coup de chaud, gros accrochage cet après-midi à l'Assemblée nationale, non pas sur les carburants, mais sur la désindustrialisation de la France.
Oui, le député RN de Moselle, Alexandre Loubet, a traité Bruno Le Maire de lâche. Le ministre de l'économie a réclamé des excuses et n'en a d'ailleurs pas obtenu. Alexandre Loubet écope d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ce qui va lui faire perdre un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. L'Assemblée où le projet de loi sur l'assurance chômage vient d'être adopté.
Vous écoutez Europe 1. Dans un instant, après une deuxième journée de bombardements russes en Ukraine, la France renforce sa présence militaire en Roumanie. À tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
La suite du journal sur Europe 1 avec Hélène Zélani. Les pays du G7 vont demander des comptes à Vladimir Poutine après une deuxième journée de bombardement sur l'Ukraine.
Et de son côté, la France renforce sa présence militaire en Europe de l'Est, aux frontières de l'Ukraine. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, vient d'annoncer le déploiement de troupes et de matériel, William Molinier, notamment en Roumanie.
Oui, décision prise hier soir par Emmanuel Macron sur proposition du chef d'état-major des armées. La France va envoyer des rafales en Lituanie, ainsi qu'une compagnie d'infanterie légère en Estonie. Cela représente une centaine d'hommes. Mais le gros de l'effort va porter sur la Roumanie, là où la France est nation cadre, puisqu'une compagnie de véhicules blindés de combat d'infanterie et un escadron de chars Leclerc vont y être envoyés. C'est au total près d'une trentaine de véhicules, environ 200 soldats. Alors le char Leclerc, c'est le fleuron de la cavalerie française, un char parmi les plus performants au monde. Certes, ce n'est pas une douzaine d'unités déployées en Roumanie qui va changer le cours de la guerre, c'est effectivement surtout tout symbolique. Mais clairement, le message envoyé, c'est un durcissement de la posture de défense. Et c'est surtout une opération logistique à part entière pour l'armée de terre qui va devoir donc acheminer ses véhicules, 60 tonnes d'acier et de blindage par unité, jusqu'à Chincu, au centre de la Roumanie, où une base militaire est d'ailleurs en construction pour accueillir jusqu'à 6 fois plus de militaires de l'OTAN que le pays n'en comporte aujourd'hui.
William Molinier.
Tiens, information de dernière minute, le couronnement du roi d'Angleterre aura lieu le 6 mai prochain. Le roi Charles III qui a été proclamé roi, hein, c'est automatique, après le décès de sa mère Elisabeth II en septembre dernier. On continue le journal, on parle souvent de la hausse de la délinquance. Aujourd'hui, le gouvernement annonce une baisse.
Oui, les vols avec violence ont diminué de 23% en septembre par rapport au même mois l'an dernier. Ça concerne les 20 départements les plus sensibles en matière de délinquance. Et puisqu'on parle des effectifs de police, le Sénat entame l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Il prévoit le déblocage de 15 milliards d'euros sur 5 ans et la création de 8500 postes de policiers et gendarmes. Les policiers toujours vent debout contre la réforme de la PJ. Ils étaient plusieurs centaines cet après-midi devant les sièges de Paris et de Marseille.
On passe au football. Séisme en vue au Paris Saint-Germain.
Oui, alors que les Parisiens reçoivent tout à l'heure les Portugais du Benfica en Ligue des Champions, on apprend que le joueur star du PSG, Kylian Mbappé, a le blues, Cyril de la Morinerie. Selon vos informations, il aurait l'intention de quitter le club.
Oui, 4 mois et demi après sa prolongation, Kylian Mbappé ne se sent plus bien au Paris Saint-Germain, selon une source très proche du joueur, jointe par Europe 1. L'attaquant de 23 ans n'est pas dans le meilleur état psychologique. Il serait aujourd'hui affecté par la situation, notamment par les promesses verbales non tenues. Selon nos informations, lors de sa prolongation, Kylian Mbappé aurait obtenu certaines garanties de la direction et notamment le recrutement d'un avant-centre de métier. Cet attaquant n'est jamais arrivé. Parmi les dossiers sensibles qui ont affecté la relation de confiance entre l'entourage de Mbappé et le club, il y a aussi la situation contractuelle de Neymar et son éventuel départ du club. Conséquence, les liens entre la garde rapprochée de Mbappé et le président Nasser Al-Khelaifi, ainsi que du portugais Antero Henrique, qui a un rôle de conseiller sportif au PSG, serait coupé. C'est simple, me dit une source proche du joueur, c'est assez froid, il ne se voit plus. Mais le malaise entre les deux parties ne date pas d'hier. Selon nos informations, Kylian Mbappé avait déjà demandé à partir cet été. En juillet précisément, l'attaquant parisien est donc plus que jamais ouvert à un départ du club. Pourquoi pas au Real Madrid? Les ponts ne seraient pas coupés entre l'entourage du joueur et la direction du club espagnol. En revanche, du côté du PSG, bien la porte est totalement fermée. Selon une source proche du club jointe par Europe 1, il n'est pas question de laisser partir Kylian Mbappé, encore moins cet hiver.
Et au Parc, Cyril, les supporters sont déjà dépités en apprenant la nouvelle.
Ah bah j'espère qu'il sera hué, qu'il aura un bel accueil, mais dans un stade où ouais, il va se faire huer, quoi. J'espère. Il aurait dû partir directement en libre, c'était pas grave que là maintenant de faire des petits éclats comme ça, un peu un enfant gâté on va dire.
Moi il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois il y a un problème avec Mbappé. Il est jamais content, il se passe toujours un truc qui est pas bon pour lui. Après je pense que ce qui lui a été promis, ça a été le leader du projet, la tête de gondole. Malheureusement, bien heureusement, Neymar et Messi performent. Nous, on est content en tant que supporter. Peut-être, lui, il n'est pas content. Après, c'est son problème à lui.
Voilà, des supporters du PSG interrogés par Cédric Chasseur, PSG Benfica. C'est à partir de 21h en direct dans Europe 1 Sport. Et puis, c'est fini pour deux entraîneurs de Ligue 1. Michel Derzakarian, limogé à Brest pour mauvais résultats. Et Jean-Marc Furlan, mis à pied à Auxerre avant licenciement. Il avait fait un doigt d'honneur au public lors de la défaite de son équipe à Clermont. Les marchés financiers maintenant. Claire Lemaître de boursier.com, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Le CAC 40 toujours dans le rouge.
Oui, cinquième séance dans le rouge, même si on a limité la casse. Le CAC 40 finit sur un léger repli de 0,13%, 5833 points. Marché plombé par les sombres prévisions du Fonds monétaire international. La croissance mondiale devrait se limiter à 2,7% en 2023, avec la hausse des taux aux États-Unis ou l'envolée des prix du gaz en Europe. L'Europe où les marchés sont en baisse ce soir, Londres cède plus de 1%, moins 0,4% pour Francfort, moins 0,8% pour Amsterdam et donc moins 0,1% pour le CAC 40 à Paris.
Merci Claire Lemaître.
C'était La Bourse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Et merci à vous Hélène Zellani, à demain.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Allez, les couleurs du ciel, on retrouve Marlène Duret. Une météo plutôt calme hein, demain.
Oui Raphaël, surtout en journée, parce que le matin, on pourra quand même avoir de bonnes averses dans les départements pyrénéens, dans le midi toulousain, le Tarn, l'Aveyron, le Cantal, hein, dans ces coins-là. Des pluies plus isolées en continuant vers la région Rhône-Alpes. Allez, on change de zone, suivez-moi. Entre la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Auvergne, sur une grosse partie du centre-Val de Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, Lorraine, Alsace, dans toutes ces régions, grosse incertitude. Journée calme, certes, il n'y aura pas de vent. On est en automne, dans un contexte de pression élevée, c'est l'effet Kinder Surprise.
Oh, pas de publicité gratuite.
Ah oui, alors Lint Ferrero, voilà. Bah oui, il faut en donner trois, hein, je crois. Donc on marche sur des œufs à Météo France, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la matinée sera grise ou pas. C'est un peu compliqué, c'est le contexte qui est comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en journée, le ciel sera assez homogène, partagé entre nuages et soleil. Soleil particulièrement généreux des frontières belges et luxembourgeoises à l'Île-de-France, au Pays de la Loire en particulier le matin.
Et puis dans le Nord, il fera un poil plus frais demain matin par rapport à aujourd'hui.
Oui,
hein.
Dans le Nord, effectivement, le ciel sera bien dégagé, donc par endroits. 2 degrés à Lille, attendez-vous à quelques gelées dans les Hauts-de-France. En revanche, les minis seront douces, sous la couverture nuageuse classique, logique. Dans le Sud, 13 à 16 degrés. Et puis les maximales, allez, elles ne bougent pas vraiment demain. 16 à 20 degrés sur la moitié Nord et 20 à 24 sur la moitié Sud.
Ah, le chocolat ne fond pas. Merci Marlène Duret. On vous retrouve à 23h pour un nouveau point météo sur Europe 1. Restez avec nous dans quelques instants. Nous évoquons la crise des carburants, on peut l'appeler comme ça. Vous vous en êtes rendu compte à la pompe, ça fait 15 jours que ça dure. La CGT sera avec nous dans quelques instants, l'une de ses représentantes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Merci d'être fidèle à votre grand rendez-vous d'information du soir sur Europe 1. 31%, excusez-moi, des stations-service de l'Hexagone connaissent encore des difficultés à ce jour. 15 jours que des mouvements de grève chez Total Energy et ExxonMobil ont lieu. Nous en parlons ce soir avec la secrétaire confédérale CGT, Céline Verzelletti, qui va nous rejoindre. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, qui est avec nous. Bonsoir. Et il va nous rejoindre également dans quelques instants. Nous avons gardé avec nous William Molinier, journaliste au service police-justice d'Europe 1, parce qu'on a besoin de vos lumières, cher William. Ça n'est pas tous les jours que l'État réquisitionne du personnel. C'est l'information de la journée. Hein. Elisabeth Borne, à l'Assemblée nationale tout à l'heure, a tapé du poing sur la table et demandé donc au préfet une procédure de réquisition dans les dépôts de carburant Esso. Première question pour vous, Madame Verzelletti de la CGT. Vous allez contester ces procédures de réquisition?
Oui, bien évidemment. Hein, la réquisition de grévistes pour briser, là, comme ils le font, une grève de revendication professionnelle est illégale. Et je dirais même que ça constitue une violation grave de la liberté syndicale. Bon, donc nous ne nous laisserons pas faire, ça c'est très clair. Et nous mobilisons d'ailleurs nos bases militantes et nos syndicats pour soutenir les grévistes, pour aller sur les piquets de grève, avoir des rassemblements. On va donc organiser des rassemblements devant les raffineries et aussi devant les préfectures.
Voilà, un nouvel appel à la grève a été lancé dans une nouvelle raffinerie à Donge, raffinerie Total hein, dans l'Ouest, qui était jusque-là plutôt épargnée par ces pénuries. William Molinier, comment ça se passe une réquisition? Quelle est la procédure?
Alors en fait, c'est assez simple, hein, c'est comme dans le cadre... par exemple, vous savez, du service minimum, des médecins. Les médecins peuvent être réquisitionnés, les cheminots peuvent être réquisitionnés. Il y a toute une série d'acteurs de l'État qui peuvent être, voire même d'entreprises privées qui peuvent être réquisitionnées. En fait, c'est assez simple. C'est le préfet qui prend donc un arrêté de réquisition, c'est-à-dire qu'il va demander la liste des personnes qui peuvent être réquisitionnées chez Total, chez Esso. Cibler plusieurs personnes. Alors, toute la difficulté juridique réside dans le fait que, en fait, en tout cas, le débat juridique réside dans le fait de réquisitionner l'ensemble des personnes réquisitionnables ou une partie pour assurer ce qu'on appelle le service minimum, qui est un fondement légal. Hein, c'est le code général des collectivités territoriales qui le prévoit. Et ce code-là donc, prévoit de permettre au préfet de réquisitionner, d'envoyer en fait, à ces quelques personnes qui vont devoir travailler dans la raffinerie ou dans le dépôt, qui vont donc c'est ils vont devoir, il va envoyer un policier ou un gendarme leur notifier cet arrêté de réquisition pour qu'ils aillent travailler.
Ils sont réquisitionnés, obligés d'aller travailler, mais s'ils refusent ?
Alors, s'ils refusent, c'est là où commencent les problèmes, j'allais dire. Donc, ils ont déjà une possibilité de recours devant le tribunal administratif. Et par le passé, il y a eu la jurisprudence est assez... assez flou dans le sens où il y a eu dans le passé soit des décisions en faveur ou contre, mais en tout cas s'il refuse in fine alors que la justice donne raison à l'État, eh bien ils encourent jusqu'à 6 mois de prison et 10 000 euros d'amende.
Pierre Chasseret, on imagine que du côté des automobilistes ce soir il y a une forme de soulagement de voir le gouvernement entrer dans la danse, taper du poing sur la table, réquisitionner pour qu'il y ait un service minimum.
Vous savez, moi je suis une association d'automobilistes. Je ne m'occupe que des automobilistes. Mon job, c'est de défendre 40 millions d'automobilistes. Quand je vois une grève, il y a un droit de grève en France qui est légitime, mais quand je vois un gouvernement inefficace parce que cette grève met en péril le quotidien de 40 millions de Français, alors là, je me demande ce que fait l'État. C'est-à-dire que là, on est tard. On est très tard. On est trop tard. Je me souviens encore de la même chose la semaine dernière, où à 40 millions d'automobilistes, on annonçait déjà la pénurie, et où au final, on nous expliquait dans le gouvernement qu'il n'y en avait pas. Qu'encore une fois, l'association 40 millions d'automobilistes avait des lubies. La réalité, c'est qu'on avait raison. Comment se fait-il qu'on attende les bras ballants que le lait soit répandu ? Moi, je ne comprends pas. Je vais même vous annoncer quelque chose sur Europe 1 ce soir. Le 31 octobre, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, il va y avoir la fin de la première étape de la prime gouvernementale. 20 centimes sur les carburants d'aide du gouvernement qui vont disparaître. Vous savez ce qui va se passer ?
On passera de 30 à 20 centimes, voilà.
Oui. Il va se passer à nouveau une pénurie. Pourquoi ? Parce que tous les automobilistes que nous sommes, bah évidemment, à moins d'être fous, on préfère faire un plein à 20 centimes le litre de moins que le lendemain à 20 centimes de plus. D'autant plus que ça va tomber juste avant le week-end de la Toussaint. Et en plein milieu des vacances scolaires, il fallait pas être très malin pour inventer un calendrier comme ça. Donc je vais en profiter, comme ça au moins il y aura une trace. Je vais envoyer un message au président de la République. Monsieur Macron, il est temps de siffler la fin de la récréation. L'État doit gérer cette crise très vite pour que nous retrouvions un accès au carburant. Mais, monsieur le président, n'oubliez pas une chose qui est absolument capitale. Renouveler l'aide gouvernementale ou baisser enfin la TVA à 5,5 sur les carburants. Ce dossier des carburants, je le vis depuis que je suis arrivé à 40 millions d'automobilistes, avec toujours le même problème de fiscalité, toujours les mêmes problèmes. On va quand même pas se retrouver encore le bec dans l'eau le 1er novembre à pleurer sur le lait répandu, alors que sur Europe 1 ce soir, l'association 40 millions d'automobilistes envoyait ce message en direct au président Macron.
On va poursuivre notre conversation après une courte pause sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous parlons de la pénurie des carburants. Elle touche au moins 31% des stations-service de France. Dans la région parisienne, c'est 44%. Dans le centre Val-de-Loire, 45%. Nous en parlons avec la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelati, et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. William Molinier, journaliste au service police-justice d'Europe 1, est également avec nous pour nous éclairer sur cette décision prise par le gouvernement aujourd'hui, la réquisition de personnel dans les dépôts de carburant Esso. Céline Verzelati, la première ministre l'a dit, ça pourrait ensuite concerner les raffineries Esso, mais aussi surtout Total. Ça ne vous force pas à revoir vos revendications à la baisse, vos méthodes de revendication? Vous ne sentez pas que ça agace le gouvernement, que ça agace en fait beaucoup de Français, cette situation?
Non, mais alors après, que ça agace tous ceux qui doivent pouvoir justement prendre l'essence, ça c'est clair. Nous estimons que la responsabilité, elle est chez Total, elle est chez Esso, qui refuse de négocier, qui refuse de répondre aux revendications tout à fait légitimes des salariés quand même. Juste pour rappel, le PDG de Total, il a doublé son salaire l'an dernier. Je veux dire, lui, il a pas attendu cette année pour augmenter son salaire. Quand je dis doubler sa rémunération, qui est énorme, hein. Là, on parle de millions d'euros par an. Donc, de l'argent, il y en a chez Total et Esso. Ils ont multiplié aussi leurs profits et ils ont donné des dividendes cette année encore plus, de manière de plus importante encore que l'an dernier. Donc, des profits, il y en a, de l'argent, il y en a. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, les salariés demandent des augmentations de salaire, notamment par rapport à l'inflation. Ils sont comme tous les autres salariés, ils ne veulent pas perdre de pouvoir d'achat. Et malheureusement, de nombreux salariés sont obligés d'aller jusqu'à la grève, justement pour obtenir, ne serait-ce qu'obtenir des négociations. Ce que Total refuse depuis des mois et des mois.
Alors Total quand même d'avancer les négociations annuelles obligatoires d'un mois. Elles auraient lieu en octobre au lieu de novembre. ExxonMobil propose une prime. La seule condition, c'est la levée des blocages. En fait, il n'y a pas moyen de discuter quand on vous entend, Céline Verzelletti.
Non, mais c'est eux. Total, lui, il avance les négociations qui étaient prévues en novembre, mais qui sont pour l'année 2023. Nous, on en est encore sur l'année 2022. On dit que pour l'année 2022, l'augmentation de 3,5% n'est pas suffisante puisqu'elle est en deçà de l'inflation. Donc, on est toujours en 2022 et c'est pas pour 2023. Là, ce que demandent les salariés, c'est qu'il y ait une augmentation de 10% pour l'année là, parce que justement, l'inflation est bien au-delà des 3,5%. Donc, si vous voulez ne pas perdre d'argent par rapport à l'inflation, il faut bien que les augmentations de salaire soient équivalentes à l'inflation. Ça, je veux dire, tout le monde peut le comprendre. D'autant plus que là, il s'agit, comme je le disais, de multinationales qui dégagent énormément de profits, où le PDG a doublé sa rémunération l'an dernier et où finalement, ces multinationales ne payent même pas d'impôts en France. Donc, je veux dire, c'est véritablement problématique et je ne comprends même pas que le gouvernement, au lieu de s'en prendre à ces employeurs-là qui ne participent pas, on va dire, à ce qui doit participer, ne serait-ce qu'au niveau du pays, aussi au niveau des impôts, qui s'en prennent à ces salariés qui, eux, par contre, triment, n'ont pas des rémunérations qui équivalent à leur qualification et au travail qu'ils mènent et aux richesses qu'ils produisent. Et en plus, je dirais que le gouvernement viole une liberté fondamentale qui est quand même la liberté du droit de grève. Donc ça fait beaucoup de choses. Et bien évidemment, nous, alors là, pour le coup, je vais vous dire, les mobilisations vont se multiplier. Et d'ailleurs, on appelle de toute manière depuis un certain temps les salariés à se mobiliser, quel que soit leur secteur, pour exiger ces augmentations de salaire.
Et on rappelle qu'il s'agit de grèves préventives qui interviennent avant les négociations. Pierre Chasseret, vous représentez 40 millions d'automobilistes. Vous aviez un message pour Emmanuel Macron. Avez-vous un message à adresser à la CGT, qui est en pointe de ce mouvement de grève qui touche de plus en plus de raffineries?
Bah écoutez, vous me connaissez, je vais pas y aller avec la langue de bois.
Arrêtez. S'il vous plaît, non, pas de langue de bois.
Arrêtez, s'il vous plaît, mettez fin à cette grève, parce que il y a grève et grève. Si vous voulez, dans tous les corps de métier, si vous demain, Europe 1, il y a un mouvement de journalistes qui fait grève, on va tenir à peu près l'antenne, parce que derrière, on met en péril son job. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est en train de mettre une France complète à l'arrêt. Est-ce que le pays a vraiment besoin de ça? Alors j'entends toutes les revendications, mais il y a certainement d'autres manières de pouvoir y arriver que de prendre en otage 40 millions de Français. Franchement, imaginez les drames potentiels qui peuvent survenir. C'est pas responsable. Imaginez demain si, si ce soir j'ai besoin d'emmener mon gamin à l'hôpital et que j'ai pas de carburant. Je fais comment? Donc arrêtons un petit peu. Je pense qu'il faut reprendre un peu ses esprits. Tout combat est légitime lorsqu'on défend avec des armes adaptées. Et là, l'arme n'est pas adaptée à votre combat. Vous êtes en train, la CGT, de mettre à plat l'économie nationale, la mobilité nationale, et vous êtes en train peut-être de créer des drames pour certains automobilistes qui vont les vivre. Ce n'est pas responsable.
Alors Céline Verzelletti, secrétaire confédérale à la CGT, va vous répondre. J'aimerais, avant qu'on entende Michel Fournier, il est président de l'Association des maires ruraux de France, lui-même maire de Voivre, c'est dans les Vosges. Il répondait à Romain Desarbres dans Europe Midi.
La différence peut-être qu'il y a entre la ville et la campagne, c'est que nous n'avons pas une station toutes les 1 ou 2 kilomètres. Donc ça veut dire que quand vous avez ce besoin de vous ravitailler et que vous devez faire peut-être quelquefois 15 ou 20 kilomètres pour trouver une autre station, à condition qu'elle soit elle-même ravitaillée. Le sentiment d'être les oubliés, il y a déjà ce ressenti sur d'autres points, oui. Que ça soit, on va pas l'évoquer, mais sur la santé, etc., etc. Tout cela ne contribue à une seule chose, c'est que les esprits se raidissent, peuvent se durcir, et je dis qu'il faut mesurer une forme de colère qui gronde un peu, qui peut arriver à de nouveau des explosions, et ça, on ne le souhaite pas.
Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France, à la mi-journée sur notre antenne. Céline Verzelletti, vous représentez la CGT. Vous entendez maintenant cette colère. Elle dure hein, depuis 15 jours. On voit aussi des scènes de tension aux pompes à essence.
Non mais ce que je trouve ça assez incroyable, c'est qu'on s'en prend tout le temps au même, c'est-à-dire aux salariés.
Non, je m'en prends pas à vous.
Non, si, si.
Chère madame, je ne pense pas que ce soit l'objectif de votre mouvement.
Ah ben, un petit peu, parce que finalement, à qui on demande de faire des efforts systématiquement ? C'est toujours aux salariés. Là, les salariés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça choque personne que le PDG de Total se soit octroyé de telles augmentations de rémunération. Ça choque pas du tout que Total Énergie, qui dégage des milliards d'euros de profits, ne paye pas d'impôts en France. Ça choque personne qui ne respecte pas le droit de grève, que le gouvernement n'essaye pas justement, il peut imposer des négociations avec les employeurs, les salariés, pour aboutir justement à des mesures qui satisfassent tout le monde. Il y a les moyens, il y a l'argent. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ce sont les salariés qui, eux, exercent leurs droits ? Je répète, le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça serait à eux à tout arrêter, à accepter de continuer à travailler sans augmentation de salaire, c'est-à-dire à continuer à perdre du pouvoir d'achat, alors qu'on a un PDG qui se gave, on a des actionnaires qui se gavent de milliards d'euros, et ça, personne ne dit rien. Moi, je trouve que c'est assez hallucinant. Vous dites que la CGT, elle met à plat l'économie, mais justement, ce sont des grands employeurs comme ça qui mettent à plat l'économie, puisqu'ils ne participent pas justement au bien commun, ils ne payent pas d'impôts, ils ne permettent pas, au lieu de réinvestir l'argent qu'ils gagnent sur le dos des usagers aussi, sur le dos de ceux qui prennent l'essence, sur le dos de la population, sur le dos des salariés, ils ne réinvestissent pas cet argent dans l'appareil productif, ni dans les salaires, ni dans l'économie en France. C'est un problème quand même. Et je trouve que personne ne le dénonce, ça. Et je pense que c'est dans l'intérêt général que ces salariés-là se mettent en mobilisation aussi. Et d'ailleurs, dans l'intérêt de ceux qui vont payer l'essence demain. Parce que, en effet, avec tout ce que engrange Total comme bénéfice, il pourrait y avoir en plus des baisses à la pompe. Et aujourd'hui, l'essence est beaucoup trop chère aussi.
Alors, Céline Verzelletti, secrétaire confédérale à la CGT, vient de nous dire qu'on mettait à mal le droit de grève qui, il est vrai, est un droit constitutionnel. William Molinier, qu'est-ce qui est supérieur ? Le service minimum ou le droit de grève ?
C'est une question de juriste que la justice elle-même n'a pas tranché de façon immuable et universelle. C'est-à-dire qu'en fait, systématiquement, à chaque arrêté pris, il y a une possibilité de recours devant le tribunal administratif et le tribunal administratif va donner une décision. Mais quand on regarde la jurisprudence, elle fluctue. Juste deux exemples. Lors des le dernier gros mouvement de grève dans les raffineries et dépôts, c'était en octobre 2010.
Nicolas Sarkozy, à l'époque, oui.
Exactement. Plusieurs arrêtés préfectoraux de réquisition sont pris. Le tribunal administratif de Melun, par exemple, lui a suspendu un arrêté de réquisition parce qu'il considérait que le préfet ne mettait pas en place un service minimum, mais avait réquisitionné l'ensemble des effectifs. Et pour cela, le tribunal administratif a suspendu donc l'arrêté de réquisition. Et en même temps, le tribunal administratif de Nantes, lui, a rejeté le recours de 4 salariés qui estimaient que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de grève. Donc, vous voyez, en fait, selon les arguments déposés les uns par les autres à différents endroits du territoire, vous allez avoir une décision différentes. C'est toute la magie de la justice administrative.
Merci pour cet éclairage, William Molinier. Restez avec nous, on va poursuivre notre conversation avec la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelletti, et Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Dernière partie de votre rendez-vous d'information du soir sur Europe 1. Nous parlons de la pénurie de carburant qui touche la France depuis près de 2 semaines maintenant. Avec nous, la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelletti, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, et William Molinier, journaliste au service police-justice d'Europe 1. Il nous dit tout ce qu'il y a à savoir au sujet de l'annonce de la Première ministre aujourd'hui, la réquisition de personnel dans des dépôts Esso. On a bien compris qu'il y allait y avoir des recours. Ça a été confirmé par Céline Verzelletti de la CGT. réquisitionner, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a réquisition ordonnée pour demain qu'il y aura du carburant après-demain pour tout le monde. Céline Verzelletti, ce mouvement de grève suscite beaucoup d'incompréhension au sein de la population, également à cause de ce chiffre que vous allez peut-être nous confirmer ou nous infirmer, c'est Total Energy qu'il a dévoilé, un ouvrier ou un agent de maîtrise toucherait en moyenne 5000 euros bruts par mois. Alors ça comprend le 13e mois et surtout la prime de participation qui est de 9000 euros par an. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous infirmer ce chiffre, Céline Verzelletti?
Non, je confirme pas ce chiffre. Je ne sais pas comment ils calculent les moyennes. Alors en plus, une moyenne, si vous prenez en effet, comme je disais, le salaire, par exemple, du PDG de Total qui est énorme, avec celui qui débute, hein, eh bien, c'est sûr que ça va faire des chiffres comme ça. Mais à part qu'un opérateur de raffinerie,
on parle de salaire d'ouvrier, d'agent de maîtrise, hein, évidemment.
Oui, donc un opérateur à raffinerie qui débute, il commence au SMIC. Voilà, dans la branche professionnelle des pétroliers, vous avez une grande partie des bas degrés qui sont aujourd'hui encore en dessous du SMIC. Donc voilà, il faut arrêter de faire croire que les salariés qui travaillent dans les raffineries auraient des salaires mirobolants. Par contre, je le redis, oui, le PDG, lui, il a doublé son salaire l'an dernier. Et oui, ils ont dégagé des milliards d'euros de profits et donc des milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, ceux qui travaillent, ils ont, alors certains ont des qualifications importantes, ils ont un travail assez difficile, hein. Il y a quand même des horaires décalés, ils sont en contact avec des produits dangereux, donc il y a certaines rémunérations qui peuvent aller de 2 000, 3 000 euros, mais la moyenne de 5 000 euros, je ne sais pas avec quoi ils calculent cette moyenne-là. Je le redis, ils débutent leur carrière au niveau du SMIC, donc y a, malheureusement, c'est bien en deçà. Enfin, en tout cas, nous, on réclame des revalorisations salariales par rapport aux qualifications d'une part et par rapport à l'inflation, et ça, je pense que ce sont des revendications tout à fait légitimes et qui le sont dans tous les secteurs professionnels, bien évidemment d'ailleurs, qu'ils soient privés ou publics.
Alors Pierre Chasseret, moi aussi, vous aussi plutôt, j'ai un chiffre à vous faire confirmer. Il est de l'INSEE, 74% des travailleurs en France ont besoin de leur voiture pour exercer leur profession. Vous êtes d'accord, évidemment?
Oui, bien sûr, mais c'est pour
Pierre
ça que...
Pierre Chasseret. Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes.
Moi, j'entends le discours et on n'est pas. La question n'est pas de savoir si, madame, votre combat est légitime ou pas. La question n'est pas de savoir si les éléments que vous mettez en avant sont légitimes ou pas. Je veux bien entendre la légitimité. Vous pouvez même me convaincre. Mais il y a un point sur lequel vous ne me convaincrez pas. On ne prend pas en otage 40 millions d'automobilistes. C'est ça qui me gêne. C'est l'arme que vous utilisez pour être entendu. Le fond de votre discours, c'est un discours que je ne maîtrise pas. Les conditions salariales en entreprise, je n'en sais rien. Est-ce que totalement ou pas, c'est pas le problème des automobilistes. Le problème, c'est que vous mettez dans ce conflit, vous tenez en otage. Clairement, 40 millions de Français, c'est ça qui me gêne. Quelle solution? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir comment vous pouviez faire entendre votre voix autrement? On n'a peut-être pas besoin de mettre la pagaille sur toute la France.
Non, mais est-ce que tu peux répondre?
Oui, bien sûr.
Oui, voilà. Comment dire? Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, bon, je le redis, la grève, c'est un droit constitutionnel qui est utilisé depuis très longtemps en France. Et malheureusement, on le voit, les employeurs souvent ne savent pas, sans pression et sans grève, se mettre autour d'une table. Parce qu'il ne faut pas inverser les choses, c'est ce que je dis. Là, c'est à l'employeur à proposer et à ouvrir des négociations. Parce que si l'employeur ne veut pas ouvrir des négociations, il y a blocage. Et là, le blocage, il est du côté de l'employeur. Puisque les salariés, ce qu'ils réclament, c'est des négociations. Donc nous, on réclame des négociations. Et vous imaginez, et vous avez raison, c'est complètement hallucinant de devoir faire grève pour que l'employeur accepte d'ouvrir des négociations. On en est là en France. La plupart du temps, on fait grève ne serait-ce que pour obliger l'employeur à ouvrir des négociations. Ce qui n'est pas normal, là, je vous rejoins tout à fait.
Pierre Chasseret, ajoutez.
Mais c'est pas ce que je vous dis et vous ne répondez pas à ma question. La question, je vous dis, vous avez des attentes sans doute que vous considérez légitimes. Aucun Français qui ne connaît votre métier. Donc ça, c'est... votre problème par rapport à votre direction. Je vous demande si l'arme que vous utilisez, la prise d'otage de 40 millions de Français, l'arme que vous utilisez qui va peut-être empêcher certaines personnes ce soir de se rendre dans un hôpital, est-ce que vous avez conscience que ce n'est pas adapté? On n'ouvre pas une porte avec un pied de biche.
Mais je comprends pas pourquoi vous demandez aux salariés, pourquoi vous demandez pas à l'employeur, parce qu'après tout, vous êtes tout à fait en capacité légitime d'écrire aussi à Total comment vous adressez au président de la République.
Mais non.
Pourquoi non?
Moi, je représente. Mais madame, écoutez-moi.
Attendez,
je représente 40 millions d'automobilistes. Ce n'est pas aux automobilistes de régler votre conflit.
Mais alors ne demandez pas aux salariés de ne pas exercer leurs droits sans demander à l'employeur d'ouvrir des négociations. Vous n'êtes pas objectif et vous n'êtes pas équitable.
Je vous demande si l'arme que vous utilisez,
La grève, c'est un droit constitutionnel, monsieur.
Prenez en otage 40 millions de Français.
Je vais vous dire une chose. Vous dites que vous ne savez pas ce qui se passe dans les entreprises. Vous ne connaissez pas les droits des salariés. Figurez-vous que les salariés ont des droits. Figurez-vous qu'il y a un lien de subordination qui est très fort entre l'employeur et le salarié.
Bon, donc vous voyez pas répondre.
Les liens.
D'accord.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que les rapports entre salariés et employeurs, ils ne sont pas simples. Il y a toujours des rapports de force. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Parce que
si demain les salariés
n'ont plus aucun droit de mobilisation, ils n'auront rien. Ils ne pourront même pas exercer leurs droits. Comment voulez-vous obtenir des augmentations de salaire si l'employeur refuse d'ouvrir des négociations? Il y a des négociations obligatoires sur la revalorisation salariale. C'est un devoir de l'employeur d'ouvrir des négociations. Et lorsqu'il ne le fait pas, c'est un problème. Et comment vous dire, il y a déjà eu des alertes au mois de juin et de juillet. C'est pas des grèves préventives, c'est faux. Il y a déjà eu des demandes de la part des salariés pour que l'employeur ouvre des négociations. C'est lui qui bloque. Aujourd'hui, le blocage, c'est l'employeur. Il faut l'entendre.
Alors, Madame Berzelletti, on a bien compris que vous aviez le droit des travailleurs chevillés au corps. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Vous êtes quand même bien consciente que parmi les nombreux Français qui font la queue parfois pendant des heures et des heures aux pompes à essence, il y a beaucoup de salariés, beaucoup de travailleurs que vous empêchez de facto de travailler.
Mais c'est pas nous qui empêchons, c'est ce que je vous dis. C'est là où vous renversez la responsabilité.
Non, je renverse pas la responsabilité. On a bien compris votre point de vue. J'avais une autre question. Le secrétaire national de la CGT, Philippe Martinez, sort du silence seulement ce soir. Il s'exprime dans un grand quotidien national. Pourquoi a-t-il mis autant de temps à réagir, Madame Berzelletti?
Vous me posez la question?
Tout à fait.
Ah, pardon. Il était en déplacement, il était en Palestine. Il va revenir en urgence par rapport à tout ce qui se passe.
Donc il était censé rester dans les territoires palestiniens jusqu'à samedi. Il va rentrer avant samedi. C'est ce que vous nous annoncez ce soir.
Oui, tout à fait. Et dès demain, il sera là, s'il peut, parce que c'est un peu compliqué. Mais il réduit son déplacement. Il arrive en urgence par rapport à la situation.
Voilà. Et ce soir, non. Le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, il parle d'un chantage exercé par le patronat, un peu comme vous, Madame Berzelletti. Il a eu des contacts de nœuds haut niveau, je crois savoir. Il a parlé avec la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, la semaine dernière avec la Première ministre, Elisabeth Borne. Est-ce que vous avez des échos de ces conversations à nous faire parvenir?
Eh bien oui, justement, malheureusement, ça n'a pas débouché sur ce qu'on souhaitait, puisque la demande était de dire et de demander au gouvernement qu'il intervienne pour qu'il y ait immédiatement des négociations, qu'il intervienne auprès donc des employeurs pour que, notamment en tout cas l'employeur de chez Total, ouvre ses négociations pour permettre de débloquer la situation. Donc Elisabeth Borne, a priori, n'a pas du tout entendu, ou alors elle est en incapacité de se faire entendre auprès de l'employeur, ou alors c'est pas ce qu'elle souhaitait. Et quoi qu'il en soit, bien évidemment, lorsque là elle a annoncé que ça serait des réquisitions, ça va pas du tout dans le sens que nous souhaitions, c'est-à-dire que nous souhaitions justement, il faut être deux pour négocier, on peut pas être tout seul, hein. Nous, si on est tout seul autour de la table, forcément s'il n'y a pas l'employeur, il y aura toujours le blocage. Donc je pense que le gouvernement le gouvernement avait une autre partition à jouer. Il a choisi celle-ci. Je pense que c'est une erreur politique.
Alors, pour résumer, William Molinier, que va-t-il se passer ces prochains jours? Le gouvernement a demandé la réquisition de personnel dans les dépôts de carburant et
les préfets, en fait, les préfets de département qui sont concernés par ces blocages vont prendre des arrêtés de réquisition pour aller et vont demander aux policiers ou aux gendarmes d'aller notifier la réquisition auprès des salariés, juste pour lever un loup quand même. On parle de réquisition, c'est pas 150 employés sur un site. D'après le ministère de la Transition énergétique, c'est 2 à 3 personnes concernées par site. Donc le côté massif, réquisition, les policiers qui vont notifier à tous les employés, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et puis après, eh bien, si les employés qui sont réquisitionnés ne vont pas travailler, ils risquent jusqu'à 6 mois de prison donc, et 10 000 euros d'amende.
Va-t-on vers un retour à la normale? Rien n'est moins sûr. La réquisition a été demandée par le gouvernement, mais du côté des syndicats, ça coince encore. Un nouvel appel à la grève à la raffinerie de Donges chez Total dans l'Ouest. Merci à Céline Verzelletti, secrétaire confédérale CGT. Merci à Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et merci à vous, cher William Molinier, journaliste au service police-justice d'Europe 1. Dans quelques instants, votre grande soirée sport. À tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.